Frères et sœurs bien-aimés, nous entrons ce dimanche dans la semaine sainte entre toutes, dans laquelle nous allons faire mémoire de l'amour dont Dieu nous aime. Cet amour qui est à l'origine de la création, car toute l'œuvre de création est marquée par la bonté de Dieu, mais son œuvre de rédemption est plus grande encore. Dieu le Père a décidé d'envoyer son propre Fils par amour pour nous, pécheurs, pour venir nous sauver du péché qui conduit à la mort, pour venir nous délivrer du mal que nous cultivons, du mal qui se répand, telle la haine et la division dont notre monde est bien en proie. Le bon Dieu nous aime d'un amour tel qu'il décida donc l'incarnation de son Fils. Voilà le premier rabaissement de Dieu, lui qui est Dieu dans la gloire du ciel, décide de se réduire, de devenir un homme, tout en demeurant Dieu. Dans le cheminement du carême, nous avons commencé en voyant qu'en suite immédiate de son baptême, le Seigneur est reconnu par le baptiste comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Chaque année, dans l'ancienne alliance, l'on offrait par famille un agneau en sacrifice pour le pardon des péchés de l'année écoulée. Cette fois-ci, ce n'est plus des troupeaux de la terre que Dieu choisit l'agneau parfait. C'est Dieu lui-même qui nous envoie son Fils, identifié par le baptiste comme l'agneau de Dieu, qui vient pour enlever, une fois pour toutes, le péché du monde. Aussitôt que Jésus est identifié au péché, voilà que l'Esprit-Saint le pousse dans le désert de ce temps du carême que nous avons affronté. S'il vient pour nous délivrer du péché, s'il vient nous délivrer de la mort, il vient combattre et les tentations et le tentateur. Et pour toutes les fois où nous nous laissons vaincre par elle, il est victorieux, anticipant déjà dans le désert sa victoire définitive sur le péché, sur le mal, sur le mystère de la mort. Nous l'avons suivi dans ce temps du carême, lors de sa transfiguration, et nous nous sommes interrogés à l'école de saint Thomas d'Aquin, où se trouvait donc le miracle, une profusion de miracles dans le récit de transfiguration, et saint Thomas d'Aquin de nous rappeler que le miracle se tenait dans ces quelques mots qui conclut cette transfiguration du Seigneur, ils ne virent plus que Jésus seul. Parce que dans l'humanité très sainte du Seigneur se tient cachée la gloire de sa divinité, dont il leur a révélé un quelque chose de sa splendeur et de sa gloire dans sa transfiguration. Notre Seigneur Jésus le Christ est véritablement Dieu, tout en étant véritablement homme. Dans le mystère de sa passion, son humanité a tremblé au jardin de son agonie à l'idée de cette souffrance, de ces humiliations, de cette mort qui l'attend aux portes de la ville sainte de Jérusalem. Durant sa vie publique, au milieu des miracles, des signes que le Seigneur a posés, et en ce temps du carême, nous avons vu certains signes. Nous avons suivi le Seigneur à cette rencontre de l'aveugle qui retrouve alors la vue. Nous avons vu également comment le Seigneur était plein de considération pour cette Samaritaine pécheresse, lui qui fait heureusement pour nous bon accueil aux pécheurs. Au milieu de ces signes éclatants qui manifestent cette puissance de Dieu qui manifeste que dans son humanité se tient cachée la gloire de sa divinité, eh bien voilà que ce Seigneur, Dieu d'amour et de miséricorde, vient à notre secours. Et au jardin de son agonie, cette humanité tremblante, eh bien s'efforce de prier. Père, si c'est possible, que ce calice que je dois boire, celui de la souffrance et de la passion, celui de la mort, s'il pouvait passer loin de moi. C'est l'humanité du Seigneur qui parle. Mais il se ressaisit aussitôt, que ta volonté soit faite. Et par trois fois, les apôtres demi-endormis entendent le Seigneur répéter cette même prière. Et nous avons entendu le Seigneur nous dire, tellement les tourments l'assaillent, « Mon âme est triste en mourir. » Lorsque Dieu, qui sait que l'âme est éternelle, se met à penser dans son humanité que son âme est triste à en mourir, c'est dire l'angoisse qui l'envahit. Il prend sur lui toutes les souffrances de nos chemins de croix. Le baptême nous a configurés au Christ, mais nous a également configurés au Christ dans le mystère de sa passion. Saint Pierre, dont nous avons entendu à la fois la forte tête au soir de la Sainte Cène, « Ils pourraient tous tomber, moi Seigneur, je serai fidèle, fidèle à tes côtés jusqu'à la mort, et quelques heures après, renier trois fois ne jamais avoir connu ou ne jamais avoir eu part avec Jésus de Nazareth, celui que l'on va crucifier. De même en fut-il pour l'un des apôtres, apôtre, c'est-à-dire choisi par le bon Dieu depuis le jour du baptême, témoin oculaire de tous les signes du Seigneur, bénéficiant de tous ses enseignements publics, mais tout autant de ses enseignements en privé, Judas, apôtre du Seigneur, va jusqu'à le trahir. Nous le savons, frères et sœurs, notre humanité ne vaut pas grand-chose. Nous sommes bien souvent semblables à des girouettes. Nous renions Dieu dans notre vie quotidienne. Nous renions Dieu dans nos familles. Nous renions Dieu en notre France et dans notre monde. Et parfois même, comme Judas, nous trahissons. Eh bien voilà le Seigneur qui poursuit malgré tout son œuvre de salut, son œuvre de miséricorde à notre endroit. S'il se saisit de la croix, c'est par amour pour nous. Ce n'est pas par amour de la souffrance, ce n'est pas par amour de l'humiliation, ce n'est pas par amour de la mort, c'est par amour pour nous qu'il est venu se saisir de la croix de nos épreuves, qu'il est venu se saisir de la croix de nos souffrances, lorsque nous sommes peut-être cloués, cloués comme sur un lit de souffrance, cloués par l'annonce de la mort d'une personne si chère à nos cœurs ou à nos familles. Eh bien voilà que le Seigneur nous dit dans l'Ancien Testament, préparant la gloire de sa résurrection, « Dieu réclame ta vie à la tombe ». Eh bien c'est pour réclamer notre vie au silence de la mort, au silence de la tombe, que le Seigneur prend sur lui nos péchés, prend sur lui ce mystère de mort et sera alors déposé dans l'obscurité du tombeau. Mais comme il l'avait manifesté au jour de la transfiguration, ce n'est pas seulement son humanité, c'est tout autant la gloire de sa divinité qui l'habite. Alors si en tant qu'homme il meurt, il souffre sur le bois de la croix, si en tant qu'homme il meurt, rendant son dernier souffle comme nous le rendrons chacun, voilà qu'en tant que Dieu, lui qui est le maître du souffle de vie, peut ressusciter d'entre les morts. Et à tous ceux qui, comme nous ce matin, habités par la foi, par l'espérance et par la charité, nous qui par le mystère de la foi croyons en Dieu, eh bien nous savons qu'il fait de chacun d'entre nous, par le sacrement du baptême qui nous a configurés à sa mort, des enfants de sa résurrection. De telle sorte qu'en cette semaine sainte, nous suivrons le Seigneur de l'esclavage du péché où il vient nous retirer, nous conduisant à la liberté, nous faisant cheminer comme le peuple de l'ancienne alliance vers la terre promise par Dieu. Et cette terre promise, paradoxalement, c'est le ciel, c'est la vie éternelle. Nous ne sommes pas mis seulement sur la terre ici-bas pour vivre comme des bêtes et des animaux. Nous sommes mis ici-bas sur la terre pour aimer Dieu et le prochain. Pour aimer, nous disait le Seigneur dans sa pédagogie première, qu'il fallait aimer le prochain comme on s'aime soi-même. C'est la première étape de la révélation divine. Œil pour œil, dent pour dent, rétablir l'équilibre et la justice. Mais le bon Dieu nous appelle à bien plus même que la justice, puisqu'il nous fait miséricorde, il nous appelle à être à sa suite miséricordieux. Il s'agit alors d'aimer Dieu de tout son cœur et de manifester cet amour de Dieu à l'endroit du prochain. Aimer Dieu et aimer le prochain. Voilà, nous dit le Seigneur, le premier et le plus grand des commandements. Et l'amour du prochain n'est pas secondaire. Il est second. Car ce qui fait notre colonne vertébrale, la pierre angulaire de toute civilisation, c'est cet amour de Dieu qui nous saisit, qui nous invite au dépassement de soi. Alors le Christ, lui qui est la perfection de l'amour venu sur la terre, peut nous dire et nous confier, il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Quand nous suivons le Seigneur comme nous l'avons fait dans le mystère de sa passion, eh bien nous voyons combien Dieu nous aime pour avoir enduré tout ce qu'il a enduré librement par amour pour nous. Alors chacun d'entre nous, au commencement de cette semaine sainte, où nous en sommes avec le bon Dieu, nous nous présentons et nous disons au Seigneur, « Me voici Seigneur, sans retard, sans retour, me voici Seigneur par amour pour vous qui êtes mon sauveur, vous me faites cheminer de la mort à la vie. Je vous prie pour chacun de mes défunts, accordez-leur cette vie éternelle et accordez-moi au dernier jour de vous voir et de goûter alors le bonheur sans fin. Puisse la bienheureuse Vierge Marie qui est debout au pied de la croix, debout avec la dignité de la nouvelle Ève qui contemple avec effroi l'amour du nouvel Adam. Cette Vierge Marie, nous l'appelons debout au pied de la croix, la mère des douleurs, et nous comprenons avec les parents qui ont perdu un enfant ce que cette douleur signifie pour la Vierge. Siméon lui avait dit « Ton âme sera comme transpercée d'un glaive ». Le voilà le cœur transpercé de la Vierge Marie qui contemple jusqu'où va l'amour de Dieu pour les pécheurs. Mais cette Notre-Dame des douleurs est tout autant celle que nous appelons Notre-Dame de l'espérance, car malgré tout ce qu'elle contemple d'effroi et d'horreur, elle sait que son Fils sera victorieux, car le bien triomphe du mal. Puisse donc la Vierge Marie nous soutenir en cette semaine sainte, nourrir notre espérance, nous aider à dépasser les douleurs de ce monde qui se déchire, d'une France qu'on appelait jadis « douce France » et qui n'en finit pas de s'effondrer. De même en est-il de ce monde, avec ses innombrables guerres, puisse le Seigneur, par sa croix, triompher du mal et de la haine et faire à notre temps, à notre France, à nos familles, la grâce de la paix. C'est ainsi qu'il se présentera à nous au matin de Pâques par ces mots « La paix soit avec vous, ainsi soit-il ».